En 4 de la grande crise. Yun Tianming. À la fin de son examen de routine, au moment de quitter la chambre, le docteur Chang lança un journal à Yun Tianming en lui disant qu'il était hospitalisé depuis déjà quelque temps et qu'il devait se tenir au courant des dernières nouvelles du monde extérieur. Yun Tianming fut perplexe car sa chambre était équipée de la télévision. Il avait la vague impression que le médecin avait autre chose derrière la tête. Il réalisa tout d'abord à la lecture du journal que, contrairement à la période ayant précédé son hospitalisation, les informations portant sur Trisolaris et l'organisation Terre Trisolaris n'occupaient déjà plus toutes les pages. Une proportion significative de nouvelles n'avait aucun lien avec la crise. La propension de la nature humaine à se résigner face à son destin était visiblement en train de reprendre le dessus. L'anticipation des événements qui auraient lieu dans 4 siècles perdait peu à peu du terrain au profit des préoccupations du présent. Rien d'étrange à cela, se dit-il. 4 siècles plus tôt, la Chine était encore gouvernée par la dynastie impériale des Ming, si ses souvenirs étaient bons. Le Manchu Nurashi venait tout juste de fonder la dynastie des Jin postérieure, tandis qu'en Europe, les siècles sombres du Moyen-Âge venaient à peine de s'achever. Il faudrait encore attendre plus d'un siècle avant de voir l'apparition de la machine à vapeur, et 3 avant que les hommes songent à utiliser l'électricité. Si en ce temps-là, un individu s'était inquiété des événements qui auraient lieu 4 siècles plus tard, ses contemporains se seraient sûrement moqués de lui. Il était aussi ridicule de se préoccuper du sort de ses descendants que de celui de ses ancêtres. Quant à Yun Tianming, au rythme de l'évolution de sa maladie, il n'aurait même pas besoin de se préoccuper de ce qui adviendrait dans un an. Le titre d'un article sur la première page, bien visible, quoiqu'il ne fasse pas la une, attira toutefois son attention. La 3e session extraordinaire du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire ratifie la loi sur l'euthanasie. Chose étonnante. Les sessions extraordinaires du comité avaient jusqu'ici toutes été tenues pour régler la crise trisolarienne, et ce projet de loi ne semblait entretenir aucun rapport avec celle-ci. Était-ce cette information que le docteur Chang avait souhaité lui faire lire? Une quinte de toux le contraignit à lâcher le journal et il entama une pénible nuit de sommeil. Le lendemain, des reportages et des entretiens furent diffusés à la télévision au sujet de la loi sur l'euthanasie. Mais le public ne paraissait guère s'en émouvoir, et les réactions des personnes interrogées étaient très prosaïques. Cette nuit-là, Yun Tianming ne cessa de tousser et eut des difficultés à respirer normalement, le tout conjugué aux nausées et aux vertiges provoqués par sa chimiothérapie. Il eut un mal terrible à trouver le sommeil. Lao Li, son voisin de chambre, lui tendit sa canule nasale et en profita pour s'asseoir au bord de son lit. Il s'assura que les 2 autres patients de la chambre étaient endormis, puis il glissa à voix basse.
« Xiao Yun, j'ai l'intention de partir plus tôt. »«
Il te laisse sortir ?»«
Non, je vais me faire euthanasier. »
Plus tard, pour évoquer cette opération, les gens préféreraient l'expression « partir en douceur ».«
Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tes 2 enfants prennent pourtant bien soin de toi ?»
l'interrogea Yun Tianming en s'adossant à son oreiller.
C'est bien pour ça que j'ai pris cette décision. Si ça continue, ils vont devoir vendre leur maison, et pour finir, je ne serai pas mieux guéri. Je dois faire preuve de responsabilité, pour mes gamins et pour les leurs.
Lao Li sembla prendre conscience que le moment n'était peut-être pas bienvenu pour discuter de son intention avec Yun Tianming. Il lui tapota doucement le bras, puis regagna son lit. Yun Tianming trouva peu à peu le sommeil en fixant les ombres frémissantes des arbres projetées par la lumière des lampadaires sur les rideaux. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, il fit un rêve apaisé, dans lequel il avait pris place à bord d'une barque en origami dénuée de rames qui flottait à la surface d'une eau tranquille. Le ciel était d'un gris sombre et brumeux et il tombait un léger crachin, mais les gouttes ne perlaient pas sur l'eau, car celle-ci n'était traversée d'aucune ride et demeurait aussi lisse qu'un miroir. Dans toutes les directions, l'eau se fondait dans le gris du firmament. On ne distinguait aucune rive ni aucun horizon. Quand au petit matin il se remémora son rêve, Yun Tianming eut une impression étrange. Il était sûr de lui, sûr que le même crachin tomberait toujours, que la surface de l'eau ne serait jamais traversée de rides, et que le ciel serait éternellement du même gris sombre et brumeux. On allait procéder à l'euthanasie de Lao Li. Le verbe « procéder » avait été longuement débattu. Exécuter n'allait de toute évidence pas, et mener à bien n'était guère plus approprié. Quant à « achever », le verbe sous-entendait certes que le décès était une certitude, mais il était inexact du point de vue du processus concret de l'opération. Le docteur Chang alla trouver Yun Tianming et lui indiqua que s'il se sentait suffisamment en forme, il pourrait assister à la cérémonie d'euthanasie de son voisin de chambre. Le docteur s'empressa d'expliquer qu'il s'agissait de la première opération d'euthanasie de la ville, que des représentants de tous horizons allaient y assister et qu'il serait de bon ton que quelqu'un puisse y représenter les patients, voilà tout. Mais Yun Tianming avait le sentiment que cette invitation dissimulait autre chose. Toutefois, comme le docteur Chang l'avait toujours traité avec beaucoup d'égard, il accepta. Un peu plus tard, il remarqua que le visage du docteur Chang lui était familier et que son nom lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait pas où il avait pu le rencontrer avant l'hôpital. S'il n'avait jamais éprouvé ce sentiment plus tôt, c'est parce que leur discussion s'était jusqu'ici limitée à la maladie et au traitement. Un médecin est toujours un homme différent dans sa sphère privée et lors de ses consultations. Aucun des membres de la famille de Lao Li ne prenait part à son euthanasie. Celui-ci la leur avait sciemment cachée, exigeant du bureau municipal des affaires civiles et non de l'hôpital qu'il les informe seulement une fois l'opération terminée. C'était une disposition permise par la nouvelle loi sur l'euthanasie. De nombreux journalistes s'étaient déplacés pour couvrir l'événement, mais la majorité d'entre eux avaient été retenus à l'extérieur. On procédait à l'opération dans une salle d'urgence de l'hôpital équipée d'un miroir sans teint descendant jusqu'au sol, si bien que les proches pouvaient se tenir de l'autre côté sans que le patient puisse les voir. Yun Tianming se fit une place au milieu d'une foule hétéroclite d'individus. Debout devant le miroir, il fut inondé par un mélange d'angoisse et de dégoût qui manqua de le faire vomir lorsqu'il vit pour la première fois l'aspect de la chambre d'euthanasie. L'intention première de l'hôpital était peut-être louable, car pour humaniser la scène, on avait décoré la pièce et remplacé les rideaux. Un vase de fleurs fraîches trônait sur une table et on avait même retapissé la chambre avec du papier peint au motif de cœur rose. Mais cet aménagement faisait l'effet inverse. C'était comme si on avait transformé cette chambre funéraire en chambre nuptiale. L'atmosphère sinistre de la mort approchant se trouvait ainsi étrangement agrémentée d'une forme de désinvolture. Lao Li était allongé sur un lit au milieu de la pièce. Il avait l'air parfaitement paisible. Yun Tianming réalisa le cœur lourd qu'il ne s'était pas fait leurs adieux. Deux notaires publics étaient en train de régler les derniers détails administratifs de la procédure. Lao Li signa les documents. Les notaires sortis, un autre individu entra dans la pièce pour expliquer aux patients les différentes étapes de l'opération. Probablement un médecin, à en juger par sa longue blouse blanche. Il désigna tout d'abord un large écran placé devant le lit et demanda à Lao Li s'il pouvait lire les caractères qui s'y affichaient. Ce dernier répondit par l'affirmative. L'individu demanda encore à Lao Li s'il pouvait essayer de déplacer la souris avec sa main droite et cliquer sur une icône apparaissant à l'écran. Il insista sur cette étape en précisant que s'il éprouvait des difficultés, il existait d'autres moyens. Lao Li y arriva sans problème. Yun Tianming se souvint que ce dernier lui avait confié être un parfait néophyte en matière d'informatique, à tel point qu'il était contraint d'aller faire la queue devant le comptoir d'une banque chaque fois qu'il voulait retirer de l'argent. C'était la première fois qu'il utilisait une souris. L'homme en blouse blanche expliqua ensuite à Lao Li qu'une question allait apparaître à l'écran et que celle-ci serait répétée 5 fois. Sous la question se trouveraient 6 boutons numérotés de 0 à 5. Si Lao Li voulait répondre par l'affirmative, Il n'aurait qu'à se conformer aux indications données et cliquer sur le bouton correspondant, qui changerait aléatoirement de 1 à 5 pour chaque intitulé. Si la procédure était telle et ne consistait pas en un choix simple entre oui et non, c'était de façon à éviter la situation dans laquelle un malade cliquerait de façon mécanique et inconsciente sur le même bouton. Si Lao Li souhaitait au contraire répondre par la négative, il devrait cliquer sur 0 et l'opération s'interromprait aussitôt. Une infirmière entra et introduisit l'aiguille d'une seringue dans le bras gauche de Lao Li. Celle-ci était reliée à un injecteur de la taille d'un ordinateur portable par l'intermédiaire d'un tube flexible. Le médecin se saisit d'une enveloppe étanche de laquelle il sortit une burette en verre emplie d'un liquide jaune clair. Avec délicatesse, il la raccorda à l'injecteur, puis l'infirmière et lui sortirent. Il ne resta plus que Lao Li dans la chambre. L'opération commença. La question qui s'affichait sur l'écran était simultanément lue par une douce voix féminine. « Souhaitez-vous mettre un terme à votre vie ? Si oui, cliquez sur 3. Sinon, cliquez sur 0. » Lao Li cliqua sur 3. « Voulez-vous mettre un terme à votre vie ? Si oui, cliquez sur 5. Sinon, cliquez sur 0. » 5. Le processus se répéta encore 2 fois et Lao Li cliqua respectivement sur 1 et 2. Puis l'ultime question s'afficha. « Voulez-vous mettre un terme à votre vie ? Il s'agit de la dernière question. Si oui, cliquez sur 4. Sinon, cliquez sur 0. » Une vague de chagrin submergea Yun Tianming. Il faillit s'évanouir. Il n'avait jamais ressenti une tristesse aussi extrême, pas même au moment du décès de sa propre mère. Il eut envie de hurler à Lao Li de cliquer sur 0, de briser le miroir, d'étouffer cette voix. Mais Lao Li cliqua sur 4. L'injecteur se mit silencieusement en marche. Yun Tianming put voir avec clarté le liquide jaune dans la burette se réduire rapidement jusqu'à ce que celle-ci soit vide. Lao Li ne bougea pas une seule fois. Il ferma les paupières et s'abandonna à un sommeil paisible. La foule autour de Yun Tianming se dispersa vite, mais ce dernier demeura immobile, debout, appuyé contre la vitre, sans toutefois oser regarder ce corps sans vie. Il écarquillait les yeux, mais ceux-ci ne fixaient rien. « Il n'a pas souffert », murmura faiblement le docteur Chang à son oreille, comme un bourdonnement de moustique. Yun Tianming sentit au même moment une main sur son épaule gauche. « L'injection létale est réalisée à partir d'une combinaison de barbiturique, de myorelaxant et d'une forte concentration de chlorure de potassium. » Le barbiturique agit en premier. Il plonge le patient dans un sommeil profond. Le myorelaxant fait cesser la respiration et le chlorure de potassium les battements du cœur. Cela ne prend que 20 ou 30 secondes. Le docteur Chang laissa un moment sa main sur l'épaule de Yun Tianming avant de la retirer. Puis ce dernier entendit les pas légers du docteur s'éloigner. Yun Tianming ne se retourna pas. Soudain, il se rappela où il avait déjà vu le docteur Chang. « Docteur Chang » l'appela-t-il faiblement. Les pas cessèrent. Toujours sans se retourner, Yun Tianming ajouta « Vous connaissez ma grande sœur, n'est-ce pas ?» Son interlocuteur ne répondit qu'après un long moment. « En effet, nous étions camarades au lycée. Et je me souviens vous avoir croisé une fois ou deux quand vous étiez enfant. » Yun Tianming quitta mécaniquement le bâtiment principal de l'hôpital. Il comprenait à présent. Le docteur Chang agissait pour sa sœur. C'était elle qui voulait sa mort, ou plutôt son départ en douceur. Yun Tianming gardait le souvenir d'une enfance heureuse passée avec sa sœur, mais en grandissant, tous deux avaient peu à peu pris de la distance. Il n'y avait jamais vraiment eu de conflit ouvert entre eux et aucun n'avait fait quoi que ce soit qui ait blessé l'autre, mais leur éloignement avait paru inévitable. Il se sentait appartenir à une espèce différente, méprisée par l'autre. Sa sœur était une femme lucide, mais pas intelligente. Elle avait épousé un homme qui lui ressemblait. Il menait une existence morne et, même si leurs enfants étaient maintenant déjà grands, ils n'avaient toujours pas pu s'offrir une maison. Comme il n'y avait pas de chambre pour eux chez les parents du mari, ils logeaient chez le père de Yun Tianming. Ce dernier était pour sa part d'une nature solitaire. Sa carrière et son existence n'étaient guère plus glorieuses que celles de sa sœur, et il vivait depuis plusieurs années dans le dortoir de son entreprise, laissant son aîné prendre soin de leur père malade. Il comprit tout à coup la logique de sa sœur. Sa petite assurance maladie ne suffisait pas à couvrir les frais de l'hospitalisation qui grimpaient au fur et à mesure que son état s'aggravait. Son père n'hésitait pas à engloutir toutes ses économies pour le soigner, mais il n'en faisait pas de même pour aider sa sœur et sa famille à acheter un logement. Elle y voyait certainement une marque de favoritisme à l'égard de Yun Tianming. De son point de vue, l'argent dépensé par leur père aurait dû lui revenir, d'autant qu'il servait à financer un protocole de soins qui n'offrait aucun espoir de rémission. Si Yun Tianming choisissait l'euthanasie, l'héritage de sa sœur serait préservé et lui-même se sentirait moins coupable. Le ciel était couvert de nuages grisâtres, les mêmes que dans son dernier rêve. Face à ce gris infini, Yun Tianming poussa un long soupir. « Bien, tu veux que je meure? Alors je vais mourir. » Yun Tianming repensa à une nouvelle de Kafka dans laquelle une dispute éclate entre le protagoniste et son père. Le second condamne son fils à la mort. Celui-ci répond qu'il accepte, aussi tranquille que s'il promettait simplement de descendre les poubelles ou de fermer la porte. Puis il quitte le domicile familial, traverse la route, court jusqu'à une passerelle, saute par-dessus la balustrade et meurt. Kafka raconta plus tard à son biographe qu'en écrivant cette fin, il avait pensé à une violente éjaculation. Désormais, Yun Tianming comprenait Kafka. Il comprenait cet homme coiffé d'un chapeau melon, un attaché case sous le bras, et qui, 100 ans plus tôt, déambulait silencieusement dans les rues de Prague. Il comprenait cet homme aussi seul qu'il l'était lui-même aujourd'hui. De retour dans sa chambre, Yun Tianming découvrit que quelqu'un l'y attendait. C'était Wu Wen, un ancien camarade d'université. Si Yun Tianming n'avait pas de véritable ami à l'époque, ce Wu Wen avait cependant été ce qui s'en rapprochait le plus. Son tempérament était à l'opposé du sien. Il faisait partie de ces gens très à l'aise en société qui connaissent tout le monde par son nom. Yun Tianming était néanmoins probablement l'individu le plus en marge de son réseau de relations. Ils n'avaient plus été en contact depuis l'obtention de leur diplôme. Wu Wen ne lui avait apporté ni bouquet de fleurs ni présent de ce genre. Il tenait dans ses bras un carton qui semblait contenir des canettes de boissons. Après de brèves salutations, Wu Wen posa une question qui déconcerta quelque peu Yun Tianming. « Tu te souviens de notre excursion à la campagne en première année de licence ? C'était la première sortie en groupe de la classe. » Yun Tianming se la rappelait naturellement. C'était la première fois que Chang Xin s'était assise à côté de lui, la première fois qu'elle lui avait parlé. Pour tout dire, si Chang Xin n'avait pas pris l'initiative ce jour-là, il n'aurait sans doute jamais eu le courage de l'aborder lui-même pendant les 4 années de licence qui avaient suivi. Il était assis seul, observant l'immense surface d'eau du réservoir de Miyun. Elle s'était installée à côté de lui et l'avait interrogé sur ses loisirs, puis il s'était mis à discuter, tout en lançant des petits cailloux dans l'eau. Il n'avait échangé que des banalités dont discutent 2 camarades venant de faire connaissance, mais Yun Tianming se souvenait encore aujourd'hui de leurs moindres paroles. Puis Cheng Xin avait fait un bateau en origami et l'avait mis à l'eau. Sous une brise légère, le voilier s'était éloigné lentement jusqu'à n'être plus qu'un petit point blanc dans le lointain. Ce jour-là avait été le plus plaisant de toute sa vie passée à l'université. Il avait pourtant fait mauvais temps. Du ciel perlait une brune légère qui formait des rides à la surface du réservoir, et les cailloux qu'il ramassait étaient mouillés. Mais depuis ce jour-là, Yun Tianming était tombé amoureux des jours pluvieux, des atmosphères humides et des cailloux mouillés, et il pliait régulièrement de petits voiliers en papier qu'il déposait sur son bureau. Il se demanda tout à coup si l'agréable monde grisâtre de ses songes ne trouvait pas source dans le souvenir de ce jour. Quant à ce qui s'était passé ensuite lors de cette excursion, Yun Tianming n'en avait pas gardé un souvenir impérissable, mais quelques bribes lui revinrent en entendant le récit de son ancien camarade. Des filles étaient venues chercher Cheng Xin, et c'était Wu Wen qui s'était assis à côté de Yun Tianming, lui conseillant de ne pas faire le fanfaron, car Cheng Xin était ainsi avec tout le monde. Yun Tianming le savait, bien sûr. Mais Wu Wen avait rapidement changé de sujet et l'avait interrogé sur le contenu étrange de sa bouteille d'eau minérale. L'eau avait verdi et des petites particules flottaient anarchiquement à l'intérieur. Yun Tianming lui avait expliqué qu'il avait broyé des plantes sauvages et les avait fait infuser. C'était une boisson entièrement naturelle. De bonne humeur, Yun Tianming avait été plus prolixe que d'ordinaire et lui avait raconté que, si l'opportunité se présentait un jour de créer une entreprise pour produire industriellement cette boisson, il ferait certainement fortune. Wu Wen avait lâché qu'il n'avait jamais bu quelque chose d'aussi infect. Yun Tianming avait rétorqué que l'alcool, les cigarettes ou même le coca étaient infects la première fois qu'on en consommait. C'était la même chose pour tout ce qui entraînait une dépendance. « Frangin, ce jour-là, tu as changé ma vie !» s'enflamma Wu Wen en lui frappant l'épaule. Puis il ouvrit le carton et en sortit une canette dont l'extérieur était entièrement vert et sur lequel figurait l'image d'une plaine. La marque de fabrique était « Tempête verte ». Wu Wen ouvrit la canette et en offrit une gorgée à Yun Tianming. La boisson était amère mais parfumée et enivrante. Il ferma les yeux. C'était comme s'il était de retour au bord du réservoir et que Cheng Xin était encore assis à côté de lui sous la bruine. « C'est la version originale, mais on sucre toujours un peu plus les produits mis sur le marché », précisa Wu Wen. « Est-ce que ça se vend bien ?»« Du tonnerre ! Le principal obstacle aujourd'hui, c'est le coût de production. Ne va pas croire que les herbes sont bon marché. Sous un certain seuil, c'est encore plus cher que les fruits ou les noix. » Et puis un certain nombre de composés sont toxiques, les procédés de raffinage sont complexes. Mais il y a de bonnes perspectives, beaucoup d'investisseurs sont intéressés. Wu Wen Juice est même prêt à racheter ma boîte, mais ils peuvent aller se faire foutre. Yun Tianming observa Wu Wen, ne sachant que dire. Cet ingénieur spécialisé dans les moteurs spatiaux s'était reconverti en entrepreneur de boissons. C'était un téméraire, un homme d'action et la vie appartenait à ceux de sa trempe. Les hommes comme Yun Tianming, eux, étaient généralement laissés sur le carreau. « Frangin, j'ai une dette envers toi, » dit Wu Wen. Et il sortit trois cartes de crédit et un bout de papier qu'il glissa dans la main de Yun Tianming. Puis, après avoir balayé la chambre du regard, il lui murmura à l'oreille « Il y a 3 millions de yuan sur ce compte. Je t'ai écrit le mot de passe ici. Je n'ai déposé aucun brevet. » répliqua Yun Tianming sur un ton léger. « Mais c'était ton idée. Sans toi, pas de tempête verte. Si tu veux bien, accepte cet argent. Nous en serons quittes d'un point de vue légal. Mais en matière d'amitié, sache que je te serai redevable à jamais. » « Tu ne me dois rien d'un point de vue légal. Garde ça, je t'en prie. Tu as besoin d'argent maintenant. » Yun Tianming n'en rajouta pas et accepta son offre. C'était une somme énorme, mais il ne tomba pas dans un enthousiasme excessif, car il était bien conscient que l'argent ne lui sauverait pas la vie. Cependant, il voulut forcer le destin et une fois Wu Wen parti, il tenta de consulter le docteur Chang. Après bien des efforts, il finit par interroger le vice-directeur de l'hôpital, un oncologue renommé. Il lui demanda en toute franchise s'il aurait davantage de chances de s'en sortir en mettant la main à la poche. Après avoir consulté le dossier médical informatique de Yun Tianming, le médecin secoua lentement la tête, lui disant que les métastases s'étaient étendues au cœur depuis ses poumons. Il était déjà trop tard pour opérer. Il ne restait plus que les protocoles traditionnels de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Ce n'était pas une question d'argent. « Jeune homme, vous connaissez l'expression. Le médecin guérit ceux qui peuvent être guéris et le Bouddha sauve ceux qui doivent être sauvés. » Quelque chose dans le cœur de Yun Tianming se glaça, mais il trouva la paix. L'après-midi même, il effectua une demande officielle pour être euthanasié. Ce fut son médecin principal, le docteur Chang, qui lui présenta le formulaire. Celui-ci paraissait si rongé par le remords qu'il n'osa même pas regarder son patient dans les yeux. Il se contenta d'indiquer à Yun Tianming qu'il pouvait cesser sa chimiothérapie. Il s'épargnerait au moins désormais les effets indésirables du traitement. Il ne lui restait dorénavant qu'une chose à faire. Réfléchir à la façon de dépenser la somme astronomique qu'il venait de recevoir. La morale aurait voulu qu'il la lègue à son père, qui pourrait ensuite la redistribuer aux autres membres de la famille, mais cela revenait à mettre cet argent entre les mains de sa sœur, et ce n'était pas ce que souhaitait Yun Tianming. Il avait déjà accepté de mourir comme elle le voulait et estimait ne plus avoir de dette envers elle. Il allait donc pouvoir accomplir ses propres rêves. Faire un tour du monde en croisière à bord d'un paquebot de luxe comme le Queen Elizabeth était tentant, et l'argent reçu devait suffire. Mais son état de santé ne le permettait pas, et il n'avait sans doute plus beaucoup de temps devant lui. Il aurait pourtant voulu pouvoir prendre un bain de soleil sur le pont et repasser sa vie en détail en contemplant l'océan. Ou bien parcourir le littoral d'un pays mystérieux sous la fraîcheur des embruns, ou encore s'asseoir sur les berges d'un lac à la surface recouverte de rides de pluie pour y jeter des cailloux. Il repensait encore à Chung Sin. C'était de plus en plus fréquent ces derniers temps. Le soir même, son attention fut attirée par une nouvelle télévisée.
Au cours de la 12e session du Conseil de défense planétaire des Nations Unies, a été adoptée la résolution numéro 479. Le lancement du programme Stellaris. À cette occasion, un comité composé de membres du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Commission des ressources naturelles et de l'UNESCO a été créé avec pour tâche de coordonner la mise en vigueur immédiate du programme. Le site internet chinois du programme Stellaris a inauguré ce matin le lancement officiel de ce projet dans notre pays. Selon les représentants du bureau pékinois du programme Stellaris, celui-ci est ouvert aux entreprises et aux individus, mais aucun investissement provenant d'organisations non gouvernementales ne sera étudié.
Le sang de Yun Tianming ne fit qu'un tour. Il enfila sa veste et lança à l'infirmière qu'il sortait de l'hôpital pour se promener, mais l'heure du couvre-feu étant passée, cette dernière refusa de le laisser partir. Il retourna dans la pénombre de sa chambre, tira le rideau et ouvrit la fenêtre, ce qui fit râler le nouveau patient qui avait récupéré le lit de Lao Li. Yun Tianming leva la tête. Les lumières troubles de la ville embrumaient le ciel, mais il était encore possible de distinguer quelques points de lumière cousus sur le manteau nocturne. Il savait enfin ce qu'il allait faire de son argent. Il allait offrir une étoile à Chung Sin.